Interview Sport, à la rencontre du monde sportif. Tristan Roux est le président de l'association Course Nature 66 qui organise le 100 miles sud de France, une course d'ultra-trail avec une traversée des Pyrénées-Orientales, de Beaulcaire-Pyrénées 2000 à Argelès-sur-Mer, de quoi relier la mer à la montagne. Le départ sera donné le 1er octobre prochain, mais avant cela, découvrons ensemble la manière par laquelle est organisé un tel événement. Comment est née la course? À quoi faut-il penser pour l'organiser? Et quel est son avenir? Tout ça c'est maintenant dans Interview Sport. Interview Sport, à la rencontre du monde sportif. Bonjour Tristan Roux, je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Peux-tu te présenter s'il te plaît?
Bonjour Kylian, merci de m'inviter. Donc moi donc Tristan Roux, j'ai 27 ans maintenant et je vis donc à Mont-Louis à côté de Font-Romeu et je suis donc président de l'association Course Nature 66 et donc organisateur de la course des 100 miles sud de France.
Et est-ce que tu es toi-même coureur?
Oui, moi-même coureur, passionné de course à pied, de vélo et de ski de fond.
Et tu fais des compétitions un peu?
Oui. Bon, alors là, on en parlait un petit peu avant, mais ça fait un petit moment que j'ai pas fait de compète depuis l'an dernier. C'est vrai que cette année avec la crise, il y a pas trop eu de. Enfin, j'ai pas eu vraiment d'entraînement planifié. Je me suis inscrit un petit peu à pas beaucoup. Enfin, je me suis pas inscrit à des courses en fait, et j'ai planifié par contre pas mal de projets en off. Je me suis un petit peu réinventé entre guillemets suite à l'annulation de toutes les courses que j'avais programmées en 2020 et des projets dans lesquels je me retrouve aussi pas mal, des traversées en vélo en courant sur plusieurs jours.
Il faut traverser des Pyrénées.
Alors j'ai fait il y a deux semaines j'ai fait le tour du Mont Blanc par exemple. Donc en autonomie, hein, tout seul. Et puis, je fais aussi beaucoup de ces projets-là en vélo. Il y a quelques mois, je suis parti de chez moi, chez mes parents à Perpignan, pour aller jusqu'à Nice en vélo. Voilà, donc sur plusieurs jours, des projets qui me plaisent presque autant que la compétition. Donc je suis content que la compétition reprenne pour accrocher des dossards, mais je pense continuer ce genre de pratique-là à la longue, quoi.
Et d'où vient cette passion pour le sport, que ce soit la course à pied, le cyclisme?
Ça m'est venu un petit peu petit à petit, hein, quand j'ai un petit peu après le lycée. J'ai toujours un petit peu fait de sport, mais quand même pas mal de sport collectif quand j'étais enfant et puis adolescent. J'avais fait un petit peu d'escalade aussi. Toujours un petit peu baigné dans la montagne par mes parents qui étaient des grands passionnés de randonnée, donc j'ai toujours été un petit peu en montagne. Et puis après 18 ans, quand j'ai dû arrêter les sports collectifs parce que je commençais mes études, j'avais des horaires un petit peu décalés, je travaillais aussi un petit peu à côté, enfin, j'avais un job étudiant hein, comme beaucoup de monde, donc c'est devenu un peu compliqué d'aller faire des entraînements de sport collectif. Je me suis mis un petit peu comme ça à courir au fil de rencontres de gens que j'avais connus à la fac ou dans mes jobs qui couraient aussi un petit peu. Je me suis mis à courir un petit peu avec eux, donc au début c'était au parc des sports à Perpignan, mes premiers footings, donc un peu après 18 ans quoi. Et puis petit à petit je me suis orienté vers le trail autour de chez moi hein, dans le massif des Alberts, dans les Pyrénées Orientales, et puis un petit peu ensuite en Cerdagne autour de Font-Romeu, et puis ça m'a tout de suite plu. Et puis après quelques années à avoir beaucoup couru, je me suis mis à j'ai voulu un petit peu me diversifier, et c'est là que je me suis mis il y a 4 ans maintenant à faire du vélo en complément au début, et puis petit à petit c'est devenu je roule maintenant presque autant que je cours, donc c'est devenu un deuxième sport à part entière et plus vraiment un complément quoi.
Vraiment maintenant dans l'endurance, dans la longue distance.
Voilà, et de plus en plus voilà, je suis. Ça a toujours été un petit peu comme ça, hein, parce que j'ai pas un profil de coureur très très rapide, on va dire. Je suis quand même assez lourd en morphologie. Et donc j'ai très vite compris que je serais jamais très rapide. Mais par contre, dans l'endurance, je trouve vraiment mes marques à avoir un rythme un peu moins soutenu, mais à tenir très longtemps. Donc voilà, tout ce qui m'a vraiment attiré très, très vite, que ce soit dans la course à pied, dans le vélo, et puis maintenant plus récemment dans le ski de fond, c'est l'endurance.
Ça tombe bien, la longue distance, non seulement tu la pratiques, mais tu l'organises. J'aimerais maintenant qu'on l'aborde, le 100 miles sud de France. Elle est organisée par l'association Course Nature 66, dont tu es toi-même président. Est-ce que tu peux nous parler de cette association?
Alors l'association Course Nature 66, elle a été créée donc non pas par moi, hein, par le précédent président qui était là avant moi et qui est toujours là dans l'association d'ailleurs, qui fait partie du bureau de l'association et du conseil d'administration, donc Bernard Dechaune, qui a créé cette association en même temps que le démarrage de l'organisation de la course il y a 8 ans. Et c'est une association qui a été créée dans le but donc d'organiser des événements sportifs et donc plus particulièrement la course des 100 miles Sud de France. Voilà, c'est une course donc qui dès le début avait pour but de traverser en fait tout le massif pyrénéen en partant donc de Font-Romeu et Pyrénées 2000 Bolcaire. Pour aller jusqu'à donc Argelès-sur-Mer en passant par des points un petit peu emblématiques qui font aussi des départs un peu moindres de la course donc depuis Vernay-les-Bains et depuis Arles-sur-Tech.
Donc, est-ce que c'est la seule course qu'elle organise? T'as dit qu'elle organise aussi d'autres événements? Est-ce que c'est...
Alors c'est la course majeure, c'est l'événement majeur que l'association organise. On a aussi un autre petit événement à beaucoup moindre échelle qui est le Raid Témis Aventure, qui est un raid inter-entreprise organisé au mois de juin autour de la centrale Témis, où là c'est plutôt à destination de professionnels sur plusieurs jours.
Et cette course des 100 miles sud de France, elle est née comment?
Elle est née alors bah, dans la tête de mon prédécesseur hein, avec l'idée de rallier une idée qui a germé un petit peu de partir de chez nous en Cerdagne enfin de cet environnement pour rallier en fait l'autre bout du département en traversant tout le massif. Et donc petit à petit donc ça au début c'était une idée sur le papier hein, dit comme ça fait rêver, mais bon, il faut quand même le faire. Et puis donc petit à petit, ça s'est organisé de manière logistique avec tout un ensemble de bénévoles qu'on a su fédérer tout le long du parcours, avec des ravitaillements qu'on a su placer sur des points un petit peu stratégiques et emblématiques aussi du département, hein. Je pense au refuge des Cortalets, au refuge des Batères ou alors certains cols là, des massifs des Vallespir ou des Albères. Et donc voilà, c'est toute une fédération d'associatifs et aussi un peu de privés du département qui a su en fait mettre en place toute cette course. Mais c'est né à la base d'une idée de partir de Cerdagne, donc de Bolcaire, Pyrénées 2000, pour aller jusqu'à la mer.
Donc cette année, ça sera 8.
Huitième édition, oui, c'est ça.
Est-ce que tu peux nous parler un peu des évolutions? Parce que tu nous as dit qu'il y avait trois courses désormais.
Voilà, alors le parcours il a un petit peu changé, hein. Alors c'est toujours parti d'ici pour aller à la mer, mais il y a eu quelques modifications, que ce soit sur les parties hautes ou sur les parties basses. Très vite, il y a eu cette idée d'ajouter deux autres courses en plus de la course phare, donc qui partant de Bolcaire Pyrénées 2000 et qui fait donc 170 km pour un peu plus de 8000 mètres de dénivelé. Donc des courses petites sœurs, entre guillemets, qui sont la grande traversée sud de France et la traversée sud de France. Donc en plus de l'ultra traversée sud de France. Pour les quelques chiffres, la grande traversée sud de France, donc elle part de Vernay-les-Bains le même jour, le vendredi 1er octobre cette année. Donc elle part à 17h, l'ultra part à 10h. La grande traversée part à 17h de Vernay-les-Bains pour rejoindre Argelès-sur-Mer, donc 120 km. Et la petite sœur, entre guillemets, la traversée sud de France part de Arles-sur-Tech le samedi matin pour donc aller à Argelès-sur-Mer pour ça fait un total de 80 km.
Est-ce que ça permet un peu à tous les coureurs d'arriver en même temps?
Voilà, bah en fait ça nous permet en tout cas oui, d'avoir une pas en même temps, mais d'avoir des arrivées qui soient étalonnées en fait sur 24 heures. À partir du donc la grande course part le vendredi matin à 10 h. Le premier arrive le samedi aux alentours de midi, et à partir de là, on a des arrivées jusqu'au dimanche midi. Donc pendant 24 heures sur Argelès-sur-Mer, à la place en front de mer, à la des pins, il y a des arrivées un petit peu toute la journée et toute la nuit, ce qui permet de maintenir une animation là, sur la commune tout le long de l'événement, quoi.
Est-ce qu'il y a cette compétition du premier du 170 qui arriverait avant le 80 ou pas du tout
Non, 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 c'est chacun fait sa course. On est quand même en général, ben sur le premier du 170, ça arrive quand même bien avant que le premier du 80, parce que le premier du 80 est parti donc à 5 h du matin. Il arrive quand même un peu plus tard dans l'après-midi.
Et quand on organise une course comme ça, à quoi il faut penser? Peut-être par exemple, je pense au tracé. Comment on y pense, comment on le définit
Ouais, ben, alors ça me permet de rebondir sur la question de tout à l'heure. C'est vrai que je suis pas allé au bout au bout de ma réflexion. C'est vrai que cette année, du coup, on a un gros changement de parcours quand même sur la partie haute du tracé. En fait, habituellement, les coureurs partaient donc de Bolcaire pour descendre jusqu'à Planès et passaient là ensuite dans une partie très haute montagne qui les menait donc en haut du col Midja. Puis ensuite au col d'Helpal pour traverser la réserve naturelle de Mentette, et en ayant traversé avant la réserve naturelle de Nyer, et puis rejoignait ensuite Vernet-les-Bains en étant descendu par Pie. Là, cette année, on a décidé, bah, pour varier le parcours et puis pour offrir quelque chose de nouveau à nos coureurs, de passer complètement de l'autre côté, de l'autre versant opposé à la tête. Et du coup, à partir de Mont-Louis, au lieu de redescendre sur Planès, ils partent complètement vers la serre de Clavaire avant de redescendre sur Aulette. Et puis là, ils ont toute une partie un peu plus méditerranéenne qui les amène par plein de petits villages. Donc, c'est Escarot, tout le balcon au-dessus de la vallée de la Roja pour redescendre ensuite vers Pie et reprendre l'ancien parcours. Donc ça, cette année, ça nous a pas mal occupé quand même, parce qu'il a fallu redéfinir toutes les cartes et tous les tracés, parce qu'il fallait faire attention à ce qu'on ait le même nombre de kilomètres en fait sur cette portion-là pour respecter le nombre de kilomètres total et être toujours dans une expérience 100 miles, aller faire des reconnaissances. Contacter les nouvelles communes pour leur demander leurs autorisations. Donc ça, enfin, j'en passe plein de détails, hein, mais ça a demandé beaucoup, beaucoup plus de travail en plus de tout le travail qui nous occupe tous les ans pour mettre en place ce nouveau parcours. Mais là, il est fin prêt et on est content de pouvoir le faire découvrir aux coureurs là, dans quelques semaines, quoi.
Tu as parlé déjà un peu tout à l'heure, les ravitaillements aussi, il faut penser à les placer.
Bien sûr, bon, ça après, maintenant la plupart sont déjà placés, mais là c'est vrai que sur le nouveau parcours, on a dû placer plein de nouveaux ravitaillements. Ouais. Et tout en restant un petit peu dans la même veine et cohérent avec ce qui était déjà fait avant. Donc en termes d'espacement entre les ravitaillements, en termes de qu'est-ce qu'on fournit en fait aux coureurs à quel moment de la course, voilà, tout en essayant vraiment de répondre aux besoins du plus grand de tous, quoi, de celui qui va avoir envie de salé, de sucré, voilà, quoi. Donc c'est tout un équilibre effectivement à trouver entre le où est-ce qu'on les place et qu'est-ce qu'on place dans les ravitaillements,
Et
effectivement, ouais.
justement, ce que vous placez, est-ce que ça vient de fois des aides des commerçants locaux, comment est-ce qu'on définit ce qui va être mis sur place?
Ben alors on a un partenaire, hein, qui nous qui nous fournit qui nous fournit la totalité du ravitaillement qu'on dispatche ensuite sur toutes les bases de ravitaillement. Et c'est vrai qu'il y a quelques petites nouveautés, effectivement, comme t'en parles, cette année, par exemple, à Escarot, on aimerait mettre en place on est en train d'en discuter avec la commune, de mettre en place un ravitaillement qui serait composé de produits de fromagerie, hein, de fromagerie locale du Conflent. Qui permettrait aussi aux coureurs, en même temps qu'ils font leurs courses, de découvrir, parce qu'il y en a beaucoup qui viennent hors du département, voire de l'international, donc de découvrir un petit peu, en plus de nos paysages, les richesses gastronomiques de notre département, quoi. Donc c'est quelque chose qu'on aime petit à petit, on essaye de le mettre en place, voilà, sur quelques points, c'est difficile de le mettre partout, mais sur quelques points un peu stratégiques, essayer d'offrir quelque chose d'original aux coureurs dans les ravitaillements, donc des produits locaux, ça peut être du fromage, ça peut être, on pensait aussi à de la charcuterie, on pensait à des fruits, des fruits de saison, l'automne, ce qui arrive bien, c'est la pomme. Voilà, c'est pas mal de pistes qu'on essaye aussi de suivre pour ancrer de plus en plus l'événement dans la dynamique locale, quoi. Ça a toujours été le credo de l'association, hein. C'est un événement sur le département et pour le département, vraiment pour le fédérer et puis pour le mettre en valeur. Donc toutes ces petites pistes-là, comme ça, qui peuvent nous permettre de faire en sorte qu'il fasse surbriller encore plus le département, c'est ce qu'on aimerait. En fait, année après année, ben, perfectionné, quoi.
Et au niveau de ces bases, mais pas que, il y a aussi plein d'autres endroits, il faut des bénévoles.
Voilà, c'est effectivement c'est un gros besoin, hein. C'est le 100 miles, c'est donc ben, c'est 300, 3, à peu près 300 bénévoles s'ils sont présents sur le week-end. Alors ça, c'est les bénévoles qui vont venir nous aider alors, un jour, 2 jours ou alors tout le week-end. Et à côté de ça, on a quand même une équipe qu'on appelle les bénépro, les bénévoles professionnels, entre guillemets, même s'ils ne sont pas professionnels, hein, mais qui consacrent quand même beaucoup plus de temps et qui sont présents quand même sur toute l'année. Là, on compte entre 10 et 15 personnes, quoi, vraiment, hein, qui travaillent, qui sont présents sur la course toute l'année. Et puis ensuite, un bureau restreint et un conseil d'administration d'une poignée de personnes, quoi.
Et justement, est-ce que c'est ces personnes-là qui dirigent? Parce que 330 bénévoles pour tous les encadrer, comment ça fonctionne?
Oui, bah on a un prestataire opérationnel, hein, qui nous file un gros coup de main dans la gestion des ressources humaines. Alors en amont, il y a un gros travail pour établir la liste RH, et puis pour placer, on a des besoins bien précis en bénévoles, placer les bénévoles exactement enfin, sur les ravitaux, sur les bases vie, etc., en fonction du besoin. Et ensuite, effectivement, pendant la course, ben, à Argelès-sur-Mer, il y a le PC sécurité, où pendant ben, 48 heures, il y a au moins 2 personnes qui sont là 24 heures sur 24 pour être en liaison avec tous les postes stratégiques de la course, avec les ravitaillements, avec les bases vie, avec les serre-files qui sont derrière les coureurs. Et qui sont en contact permanence, donc du coup avec les bénévoles pour gérer ça un petit peu de manière centrale, quoi.
C'est bien que tu me parles de la sécurité, c'est un point que je voulais quand même aborder par rapport aux les médecins, la sécurité des athlètes, comment ça fonctionne?
Alors, faut savoir que le règlement de la Fédération française d'athlétisme en termes de sécurité, il est de plus en plus carré. Et aujourd'hui, en fait, sur une course, alors que ce soit une course de trail de 20 km et sur un ultra, le cahier des charges qui nous est imposé, c'est de pouvoir secourir un coureur à tout endroit de la course en moins de 30 minutes. C'est-à-dire que ce soit en pleine montagne ou auprès d'un village, hein, si un coureur a un souci, n'importe lequel, faut qu'on puisse lui porter secours et accéder à ce point en moins de 30 minutes. Ça veut dire que sur tout le tracé, et c'est encore plus dur du coup pour une course en traversée comme la nôtre, qui part d'un point A pour aller à un point B et qui fait pas juste une boucle, sur tout le tracé, il faut déployer un réseau de secours très, très, très maillé et très dense. Alors nous, on a le SDIS de Perpignan, donc qui nous fait enfin, qui assure une grosse partie de la sécurité. Puis ce dispositif, il est complété à quelques points un petit peu stratégiques par la Croix-Blanche. Alors, ça, c'est pour les dispositifs de secours. À chaque base vie, il y a aussi des médecins, un podologue, kiné, etc. Ça, c'est plus pour le confort des coureurs, mais c'est indispensable aussi. Et voilà.
Pour les coureurs, ils ont aussi besoin d'un certain matériel obligatoire pour assurer leur sécurité. C'est quoi exactement? Comment est-ce que c'est défini?
C'est un matériel qui est calqué un peu ce qu'on voit à peu près partout sur toutes les courses d'ultra, hein, surtout celles qui se déroulent en montagne. Il se compose donc de vestes imperméables, vêtements chauds, gants bonnets, frontal bien sûr, plus frontal de rechange, réserve énergétique, couverture de survie. Téléphone en état de marche. Il faut que on demande à tous les coureurs de prendre en photo le numéro de téléphone du PC course et on a les numéros de téléphone de tous les coureurs. On peut les contacter. Et après, en fonction des conditions météorologiques, on peut rendre obligatoire ou conseiller en tout cas certaines parties du matériel obligatoire un petit peu avant la course. Si on ça va être la casquette ou la réserve d'eau un peu plus grande, si on voit qu'on va être sur une condition de course très chaude, ça va être les gants plus chauds et le et la et la et la, et la veste et le et la seconde couche un peu plus thermique si on est sur des conditions un peu plus froides, ce qui est quand même plus le cas au mois d'octobre, parce que en fait c'est les courses d'automne comme ça peut être ça peut être à double tranchant, quoi, hein. Surtout là, sur une course comme celle-là, où on part quand même de 1700 mètres d'altitude pour arriver au niveau de la mer. Ça veut dire que les coureurs, en 48 heures, ils peuvent passer de 30 degrés au soleil dans les Albères à zéro au Cortalet en pleine nuit à plus de 1700 mètres, quoi. Donc voilà, il faut enfin, même plus de 2500 mètres. Donc voilà, ça impose quand même beaucoup de matériel aux coureurs pour prévenir à toutes ces conditions météorologiques. Et puis donc en plus de ça, comme je disais, toutes les indispensables de sécurité, hein, la couverture de survie, le téléphone. Voilà. C'est après voilà dans l'ultra c'est quand même assez bien compris aujourd'hui. La plupart des coureurs qui s'engagent sur ce genre d'épreuve savent que la montagne, ben, ça peut être idyllique, mais ça peut être aussi très dur, donc faut s'y préparer, quoi.
Et il y a un point où je sais que la course insiste vraiment, c'est sur l'environnement. Il y a vraiment un gros point mis là-dessus. À quel point est-ce que c'est important et qu'est-ce que vous faites exactement?
Ouais, ben en fait, la course, elle part quand même d'un parc naturel régional, hein, le PNR des Pyrénées catalanes, pour traverser ensuite pas mal de zones sensibles. Et alors, y a toute une charte d'éco-responsabilité qui est transmise aux coureurs et qui est disponible sur notre site, donc qui est transmise à l'inscription. Et on fait un gros point lors du briefing, les briefings avant course sur toutes les courses pour rappeler tous les engagements qu'on demande aux coureurs. Donc c'est bon, les plus évidents, on va dire, comme de ne laisser aucun déchet ou d'essayer de laisser de laisser au maximum ces déchets sur les points de ravitaillement ou même de les garder vraiment absolument sur soi si on est en pleine nature. Ça peut être de faire attention à bien respecter les sentiers et à rester sur les sentiers enfin, et de bien suivre le balisage. On demande aux coureurs de ne pas s'écarter du sentier. Dans les zones pastorales, ça va être par exemple de bien refermer les barrières si les coureurs doivent ouvrir une barrière pastorale pour ensuite la fermer, de pas trop s'approcher des troupeaux parce qu'on est dans une époque aussi où il y a pas mal de troupeaux qui sont en estive, donc des troupeaux avec des patous, ça peut être un peu dangereux de les approcher. On a toute une charte comme ça qu'on transmet aux coureurs et puis qu'on rappelle bien pendant le briefing, parce qu'effectivement, la course en pleine nature, c'est très bien, mais bon, il faut que ce soit fait vraiment avec pleine conscience de l'environnement traversé. Et puis bon, ça, moi, personnellement, je suis convaincu que la plupart des coureurs l'ont en tête, mais bon, on le rappellera jamais assez, quoi. C'est un sport qui est beau, qui est plein de bonnes valeurs, mais si on veut le garder tel quel, il faut faire attention de l'environnement dans lequel on le pratique, quoi. Effectivement.
Et le dernier point que j'aimerais aborder, c'est le prix des courses. Donc sur vos trois courses, c'est environ 90 centimes le kilomètre.
C'est ça.
On entend souvent dire que les courses sont trop chères de manière générale. Comment est-ce que le prix se justifie?
Bah alors, faut savoir que déjà 90 centimes du kilomètre, on est quand même sur une fourchette assez basse hein, par rapport à ce qui se pratique. La moyenne, c'est environ 1 euro du kilomètre, voire un peu plus élevé. Ça va hein, sur certaines courses jusqu'à presque le double. Il se justifie par plein de choses. On a énormément de frais fixes qui sont beaucoup liés à la sécurité. Hein, faut le savoir, une grande partie du budget, c'est pour la sécurité. Bien sûr, les ravitaillements, les lots finishers, les lots pour tous les coureurs. Il se justifie aussi par les frais qui peuvent ensuite être variables en fonction du nombre de coureurs qu'on accueille. Mais c'est vrai que c'est quand même c'est un coût assez important quoi, ce genre d'organisation. Encore une fois, beaucoup la sécurité.
Ok, bon, je pense qu'on a fait un bon tour de ce qu'il faut savoir. Je sais pas si tu veux rajouter une ou deux infos.
Non, voilà, juste souligner encore une fois ce changement de parcours là qu'on est heureux de présenter aux coureurs à partir du 1er octobre là, donc ça va, c'est dans 3 semaines maintenant. Donc la course cette année aura lieu du 1er au 3 octobre, donc premier week-end d'octobre comme tous les ans, en espérant que la météo soit vraiment au rendez-vous cette année. C'est vrai que l'an dernier on a eu quelques soucis avec la météo, avec une pas mal de neige sur le premier tronçon du parcours, ce qui ne nous était jamais arrivé. On est quand même plus souvent en général sur des conditions très favorables, une certaine douceur en ce début d'octobre. Voilà, donc là nous on est dans les starting blocks, hein, on commence un petit peu à rentrer vraiment dans la période intense de préparation. On est prêt à accueillir tout le monde et puis on a hâte vraiment de, voilà, encore une fois, de faire découvrir ce nouveau parcours aux coureurs.
Ça tombe bien, tu me parlais de l'édition précédente et des conditions météorologiques. Justement, je voulais en parler. Le 100 miles Sud de France a connu deux éditions marquantes. La première édition en 2014, avec des conditions météorologiques orageuses, où il y a des coureurs qui ont dû être évacués d'urgence. Et la deuxième, c'est pour la dernière édition, celle en 2020, qui a été l'une des seules courses d'ultra à pouvoir avoir lieu. Est-ce que tu peux nous parler de ces deux éditions spéciales?
Alors, je pourrais parler plus de la seconde, parce que sur la première, je faisais pas encore partie de l'équipe, hein, mais bon, pour en dire un petit mot, c'est vrai que c'était un petit peu aussi le lancement de cette course, donc c'était un pari quand même assez ambitieux pour ce qui m'en a été raconté. Et en plus, alors pour rien arranger, parce que ça devait déjà être très difficile d'organiser ça. C'est vrai que sur la deuxième partie de la course, donc plutôt sur la partie Albert, il y a eu des orages énormes qui ont obligé donc l'organisation à envoyer des bus au col de l'Ouillat, en dessous du pic du Néoulouz, pour aller chercher les coureurs qui ne pouvaient plus progresser. Donc beaucoup de coureurs ont dû être rapatriés sur la ligne d'arrivée. Ça a créé quand même beaucoup de soucis, mais l'organisation a su se relever pour organiser donc une deuxième édition en 2015, comme tu le disais. Et même si ça a été très difficile de recommencer après cette première édition quand même assez chaotique, et l'organisation s'est petit à petit mise en place pour arriver à quelque chose d'aujourd'hui ficelé. Ce qui nous est arrivé l'an dernier en 2020, c'est complètement différent. Les soucis météorologiques, ils sont arrivés sur la première partie de course, donc sur la partie haute. Et ça a été je ne vais pas dire extrêmement rare, mais quand même très peu visible au mois d'octobre. Ça a été des chutes de neige quand même assez importantes, dignes d'un mois de janvier, hein, sur toute la partie haute, donc au-dessus de, après le col Midja. Donc les coureurs ont progressé sur entre 30 et 40 km dans de la neige, quoi. Donc ce qui nous a obligés à réagir très rapidement et à secourir des coureurs qui avaient été mis un petit peu en difficulté, notamment au niveau de Mentette. Et ensuite, plus tard dans la nuit, par mesure de sécurité, à neutraliser toute une partie de la course de coureurs qui n'étaient pas encore partis. Si je me souviens bien, c'était à 22h. La base de vie de Vernay-les-Bains ferme à 23h30. Et autour de 22h, on a dû neutraliser tous les coureurs qui n'étaient pas encore partis parce que les conditions sur le Canigou, après le Vernay-les-Bains, ils attaquent le Canigou. Sur le Canigou, les conditions commencent à être commencer à être vraiment difficile. Donc on a neutralisé par mesure de sécurité la course et on a affrété des bus pour amener tous ces coureurs directement à Arles-sur-Tech où ils ont pu reprendre la course. Et dans l'ensemble, ça a été quand même assez bien compris par les coureurs. On s'attendait à ce que ça râle un petit peu, hein. Mais bon, la plupart avaient déjà passé pas mal d'heures dans la neige pour arriver jusqu'ici et je pense qu'ils l'ont quand même. Enfin, ils étaient même assez soulagés de pouvoir être amené directement à Arles sans avoir à repartir dans des conditions aussi difficiles, quoi. Donc voilà, deux éditions, effectivement, 2014 et 2020, assez difficiles. Il faut savoir que 2020, en plus de ça, ce qui a été dur à gérer, effectivement, c'était la crise du Covid, hein. En 2020, on était une des seules courses à pouvoir avoir lieu parce qu'on était vraiment on a été placé dans un créneau hyper favorable, hein, où toutes les courses entre mars et septembre, on va dire, ont été annulées avec cette première vague. Et puis, juste après nous, il y a eu la deuxième vague qui a commencé. Donc, à partir du mois de novembre, tout a recommencé à s'annuler de nouveau. Et nous, on est vraiment tombé dans un mois à peu près dans l'année où les courses ont pu avoir lieu. Donc, on a fait le plein de coureurs, quoi. Beaucoup, beaucoup de gens n'ont pas pu courir, n'ont pas pu avoir de dossard de l'été. Et donc, on a eu beaucoup de coureurs. Donc, ces soucis météorologiques, plus le fait qu'il y ait quand même pas mal de coureurs sur la course qui entraîne du coup un espèce de rush, hein, au niveau sécurité et tout ce qui va avec. Voilà, ça a été quand même une édition assez sport, quoi. Je pense qu'après avoir fait ça, on peut tout faire, quoi. Après l'édition 2020.
Finalement, s'il y a peut-être un truc à retenir, c'est que faut toujours savoir s'adapter.
Oui. Bah, surtout dans l'événementiel, hein. Alors bah, moi je connais surtout l'événementiel sportif, mais je pense que dans tous les domaines ça doit être un petit peu ça. Mais ouais, c'est l'événementiel, c'est avoir un plan jour par jour et vraiment carré de ce qu'on va faire, surtout pour les jours J. Mais c'est ensuite s'adapter en fonction des conditions et en fonction de toutes les situations qui peuvent arriver. Mais c'est aussi ce qu'on aime, hein, dans ce genre d'organisation. C'est un petit peu le défi, le challenge. Et puis il y a aussi comme un coureur qui finit un ultra, il y a la satisfaction à la fin pour toute l'équipe d'organisation d'être arrivé au bout du défi et d'avoir pu surmonter tous les obstacles pour offrir ça à tous les coureurs, quoi. Et c'est un peu la satisfaction qu'on tire dans ce genre d'événement et d'organisation.
Et les trois courses du 100 miles, elles sont certifiées ITRA jusqu'à cette année, enfin jusqu'à l'année passée plutôt. Elles permettaient de se qualifier pour l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont-Blanc, le sommet mondial de la discipline. Mais désormais, le groupe UTMB a créé son propre circuit avec sa course autour du Mont-Blanc à Chamonix, comme ch les championnats du monde. Déjà, que penses-tu de cette évolution? Et est-ce que ça va avoir un impact sur le 100 miles Sud de France, notamment au niveau des inscriptions?
Bah, l'évolution du circuit mondial, l'escalier, c'est vrai que c'est dommage parce que effectivement toutes les courses un petit peu qui gravillonnaient autour de l'UTMB se servaient effectivement de ce poids d'attraction des points ITRA pour attirer des coureurs. Aujourd'hui, c'est plus, en fait, c'est plus le cas. C'est plus comme ça que ça marche. C'est ça que tu.
Ben c'est ça, maintenant il y a un circuit bien spécial avec les courses UTMB à parcourir pour pouvoir
Oui, c'est
pouvoir
ça.
se
C'est les
qualifier.
courses by UTMB en fait qui permettent de se qualifier. Du coup, ben, ça élitise un petit peu le circuit mondial. Après, bon, c'est sûr que les courses UTMB maintenant elles ont lieu quand même dans pas mal d'endroits, mais bon, je pense qu'avant avec ce système de points ITRA, tous les coureurs avaient la possibilité autour d'eux d'avoir des courses qualificatives. Aujourd'hui, c'est plus compliqué, c'est dommage. Alors, c'est sûr, l'UTMB reste un mythe pour beaucoup de coureurs, mais je pense qu'il y a toute une toute une frange et une catégorie de coureurs qui augmente, hein, j'ai l'impression, dans les échanges que je peux avoir, qui se reconnaissent un peu moins dans le mythe qu'on fait autour de ces grandes courses, et puis qui vont de plus en plus chercher des courses
Local.
ouais, voilà, locales et puis intimistes, alors parfois même sans vraiment de ravitaillement, avec un minimum de balisage, presque en autonomie, quoi. Et c'est vrai que ces courses, alors nous on est quand même une course classique avec ravitaillement et balisage, etc. Mais on cherche vraiment, nous, à développer ce côté course intimiste, hein. On n'aura jamais plus de 300 personnes par départ, ce qui est quand même très peu, hein, par rapport aux grandes courses de la discipline. Mais voilà, tout ça c'est dans une volonté chez nous de garder ce côté humain, ce côté proche, alors que ce soit entre les coureurs et les bénévoles, entre les bénévoles entre eux, et puis aussi par respect de tous les zones un peu sensibles qu'on traverse, les réserves, le parc naturel, les sentiers du GR10 qui sont aussi très techniques, on ne peut pas envoyer des milliers de personnes sur ces sentiers-là. Voilà, il y a un élitisme, en fait, je le vois un petit peu comme ça. Le trail, effectivement, il y a encore quelques années, c'était un sport où on se targuait vraiment d'être un sport original, parce que les élites partaient en même temps que le reste du peloton. Il y avait vraiment presque une grande famille comme ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit se détacher avec le circuit ITMB, mais aussi avec le circuit Salomon, les Golden Trail Series, certaines courses élites, un petit peu, entre guillemets, comme soit des circuits, des courses qui sont plus vraiment accessibles au commun des mortels, entre guillemets. Et puis, de l'autre côté, des courses qui s'intimisent de plus en plus, et toute une frange qui va de plus en plus vers des courses moins organisées, entre guillemets. Donc, c'est vrai qu'il y a un détachement comme ça des deux pratiques, de l'élite et de l'amateur qui se voit. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Mais, ouais.
Et tu nous as parlé des courses élites et des courses plus intimistes comme les vôtres, enfin comme les trois du 100 miles. Est-ce qu'il y a déjà eu des grands noms du trail présents sur le
Ben,
100 miles?
l'an dernier, effectivement, profitant du coup de projecteur, effectivement, assez inédit d'être une des seules courses d'ultra en France à pouvoir se dérouler dans l'année. On a eu des grands noms, effectivement, surtout deux en la personne, donc d'Antoine Guillon et de alors c'est Benoît Girondel, chez les hommes, qui sont venus du coup courir notre course et qui ont gagné d'ailleurs main dans la main, ce qui a fait une belle image pour la course, quoi.
Et un trailer ou une trailer, ce que tu aimerais bien voir sur la ligne de départ?
Oh, je sais pas, je me dis que pour le petit coup de com' du territoire, ce serait bien d'avoir Kylian Jornet un jour. Mais bon, ce serait l'idéal, quoi.
Bon, bah très bien, c'est cette question que l'on va conclure. Je te remercie, Tristan Roux, de m'avoir consacré du temps pour cette interview.
Ben avec plaisir, merci à toi de m'avoir accueilli encore une fois.
Avant de se quitter, s'il ne faut retenir qu'une seule chose de cet entretien, qu'est-ce que ce serait?
Difficile, c'est que encore une fois, la course du 100 miles prend date, donc le premier week-end d'octobre, et qu'on l'association Course Nature 66 œuvre donc toujours, comme elle le fait depuis 8 ans, à apporter le meilleur à tous les coureurs qui nous font confiance et puis qui veulent découvrir donc les Pyrénées-Orientales à travers la course à pied.
Si des personnes veulent te contacter, te poser des questions ou avoir plus d'informations sur la course, où est-ce qu'elles peuvent le faire?
Bien sûr, bah, elles peuvent me contacter par mail. Donc mon adresse mail, donc c'est t.rouperpignan@gmail.com, et puis bien sûr par téléphone aussi au 06 73 55 08 42.
Très bien, bah, je mettrai ça dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup, à bientôt!
Ah ben, à bientôt, Kylian, merci.
Merci à ceux qui sont arrivés jusqu'au bout de cet épisode et qui ont écouté en intégralité cet entretien avec Tristan Roux. S'il vous a plu et que vous avez appris des choses, N'hésitez pas à le partager, à me dire ce que vous en avez pensé et à mettre un commentaire si vous êtes sur Apple Podcast. C'est ce qui me permet de progresser et de me rendre visible. Je rappelle que je publie chaque soir Sport Actu, un podcast sur les actualités sportives de la journée. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, @sport.kylian_tanguy. J'y publie des posts quotidiens sur le sport, je partage ma passion et j'entre en contact avec vous. Merci à tous et à bientôt sur Sport Podcast.